Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Même le terme de rechute, en fait, je crois que c'est un processus. Tu sais, il y a des pas en avant, des pas en arrière. Si tu as plus de pas en avant que de pas en arrière, c'est déjà bien.
Mon invité s'est longtemps décrit comme un cancre du bonheur avant d'en devenir un explorateur à temps plein. Brillant avocat d'affaires à New York, il dit lui-même qu'il passait son temps à faire semblant qu'il était un mec important. Les soirées, la séduction, les dépendances à toutes sortes de produits licites ou illicites, les masques qu'il porte consciemment ou pas l'aident tantôt à supporter une vie qui ne lui ressemble pas. L'addiction a ce rôle premier de combler le manque d'amour, celui qu'il n'arrive pas à s'apporter lui-même. Une solution qui a le mérite d'exister, mais qui devient rapidement contre-productive. Dans cet entretien, on parle de retraite vipassana qui l'emmène au cœur de son vide. On reviendra sur les premiers souvenirs d'un addict en impuissance, les premiers pétards, les premiers traits, les premiers bad trips, les premiers voyages, les premières méditations, un oasis de paix au milieu de tant de contradictions qu'on lui reprochera parfois. Jonathan Lehmann ne se fait pas de cadeaux. Il va chercher ses ombres et leur balance de la lumière jusqu'à ce qu'elles s'évaporent à coups de méditation, de thérapie psychédélique, de lecture d'une sagesse infinie. Il retourne aux racines, quitte à déterrer tout le reste, racines familiales d'abord, puis de celles que l'on mélange en un breuvage sacré nommé ayahuasca. Mais aussi, et surtout, les racines de la souffrance d'un enfant intérieur qui n'a de cesse de chercher l'amour et de vouloir se remplir comme un fantôme affamé, pour reprendre le titre du livre d'un de ses mentors, l'auteur et conférencier Gabor Maté. Merci Jonathan d'être parmi nous aujourd'hui et de nous livrer tes journaux de moins en moins intimes. Bonjour Jonathan.
Waouh, bonjour Karen, ravi d'être ici avec toi.
Alors, tes livres font partie de ceux qui m'accompagnent sur mon chemin, sur mon parcours de rétablissement. Et est-ce qu'on peut dire que j'ai insisté pour t'avoir au micro de Contradiction ?
Non, c'est vrai que tu as été persistante, mais à ma décharge, je suis papa depuis 13 mois. Et je vis dans un nouveau pays et j'étais un peu dépassée par les événements ces derniers temps.
Bah, c'est parfait parce qu'on aime bien les gens dépassés. est-ce que tu pourrais, pour commencer, me dire comment tu définirais l'addiction, toi, en quelques mots?
Bah, tu as cité Gabor Maté, et il me semble que lui, il a une définition de l'addiction qui est vraiment bonne, qui est vraiment utile. Il dit l'addiction, c'est un comportement qui te donne un bienfait sur le court terme, avec des méfaits à moyen, long terme. et tu peux pas t'arrêter. Ce que je trouve intéressant avec cette définition, c'est que ça englobe tellement de choses et ça montre qu'en fait, on est tous addicts. Parce que l'addiction, c'est pas juste l'addiction à l'alcool, à la drogue. C'est évidemment l'addiction aux écrans, c'est l'addiction au sucre, mais c'est aussi l'addiction à la pensée. Donc voilà, c'est une définition qui est large et qui fait qu'on est tous dans le même bateau.
Exactement, tous dans le même bateau ivre. Dans ton livre, Le journal d'un touriste du bonheur, tu retraces ton histoire jusqu'à la retraite Vipassana dont tu diras à l'époque « c'est le truc le plus fou que j'ai jamais vécu ». Bon, quand on a lu après ton livre sur le touriste, le voyageur chamanique, on se dit « il y a eu d'autres choses quand même depuis ». Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené là-bas avant qu'on parle de la retraite elle-même ? Donc du coup, peut-être de raconter un peu ton histoire, si ça ne te dérange pas, de revenir sur des périodes phares, on va dire, les périodes phares de ton histoire.
Ouais, bien sûr. Je me suis retrouvé un peu par hasard à enseigner la méditation. J'aspirais pas du tout à ça, je pensais même pas que c'était quelque chose que je pourrais faire. Mais en fait, si je fais un peu retour rapide, j'étais avocat donc à Wall Street, j'étais dépressif, j'étais addict à plein de choses. Mon père est tombé gravement malade et j'ai décidé de partir à la recherche de quelque chose, je savais pas encore quoi, je voulais juste être plus heureux. Et je suis parti en Californie où j'ai fait des études d'entrepreneuriat. Et en fait, là-bas, j'ai bifurqué, j'ai découvert la pensée de Eckhart Tolle, le yoga, la méditation. Et j'ai commencé à essayer de pratiquer la méditation. Je savais pas trop comment faire. Et donc, j'ai trouvé des enregistrements en ligne. Quelque chose qui s'appelait à l'époque Méditation Oasis, c'était un des trucs de méditation guidée que tu pouvais trouver aux États-Unis. Et la vie m'a ramené en France et je me suis rendu compte que ça n'existait pas trop la méditation guidée en France. Il n'y avait pas encore les applis, il n'y avait pas encore l'explosion dans la pratique qu'il y a eu depuis. Et donc j'ai commencé à enregistrer des méditations guidées pour essayer de partager cette nouvelle passion. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être ce qu'on appelle aujourd'hui un des premiers influenceurs bien-être. En fait, au début, j'ai lancé un blog parce que j'avais un projet de livre qui n'avait pas abouti. Je me suis rendu compte que ce blog, en fait, c'était une page Facebook. Et voilà, je suis devenu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui partage la théorie et de la pratique sur la sagesse. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai tellement de diplômes dans ma vie, j'ai fait tellement d'études, et là, pour la méditation, j'avais rien vraiment pour attester du fait que c'est quelque chose que j'étais légitime à faire. Et donc, il existe cette retraite de méditation Vipassana, où tu médites 10 heures par jour, pendant 10 jours, dans le silence, et c'est un peu un rite de passage pour des personnes qui sont des méditants. Et je me suis dit que j'aurais plus de légitimité à partager autour de la méditation si je faisais cette retraite, et aussi bien sûr que ça m'avancerait dans ma pratique.
Cette retraite Vipassana, donc, comme tu l'as expliqué, elle arrive après avoir déjà découvert Eckhart Tolle. Dépression, addiction. Est-ce que Vipassana avait pour toi quelque chose un peu... est-ce que tu fondais des espoirs dans cette retraite, par exemple, comme tu pouvais fonder des espoirs dans plus tard tes thérapies psychédéliques ? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça aussi, un espoir de soigner quelque chose ?
Ouais, je pense qu'il y a toujours, en fait, dans ces démarches que j'entreprends, d'aller de rencontrer des maîtres, d'essayer des techniques de méditation, d'essayer différentes approches. Je pense qu'il y a toujours cet espoir d'avancer, en fait. Je vois un peu tout ça comme un jeu vidéo. J'ai envie d'être un peu Super Mario de la spiritualité.
Et je vois exactement les choses de la même façon depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là, vraiment, d'avoir l'impression qu'on monte des niveaux et qu'à un moment donné, quand on reste bloqué quelque part, c'est qu'on n'a pas compris un truc, quoi.
Ouais, exactement. Maintenant, il faut faire aussi attention, je crois, avec cette idée-là, parce qu'on peut aussi rentrer dans le travers de penser qu'il y a des personnes qui sont à différents niveaux, alors qu'en fait, on peut être à différents niveaux de différentes choses. Et t'as des personnes qui sont dans la spiritualité depuis des décennies et qui sont bien plus agités que des personnes qui même ont jamais étudié quoi que ce soit de spirituel ou même des personnes qui commencent à peine une recherche. Mais oui, dans mon cheminement personnel, je sens qu'il y a ces niveaux. Ouais.
Et cet épisode dépressif, il est venu de quoi, d'après toi? C'était vraiment une perte de sens par rapport à ton métier? Est-ce que tu sentais l'addiction, la dépendance? Donc, tu consommais plutôt deux fois par semaine de la cocaïne, j'ai entendu, ecstasy parfois. T'aimais bien les soirées, quelque part, la fête aussi, tout simplement. La musique aussi, parce qu'il y a les raves, il y a des choses comme ça. Il y a un truc avec la musique électro. Tout ça, est-ce que tu savais déjà que ça a remplacé quelque chose?
Je sentais que ça me faisait du bien, mais je n'avais pas encore conceptualisé le truc. Je n'avais pas encore compris que ma démarche visait à remplir une sorte de vide existentiel. Il a fallu que j'étudie, que je rentre un peu dans l'étude de la spiritualité pour comprendre que j'avais une incapacité d'accès à l'instant présent, que je me créais de la souffrance et que pour anesthésier cette souffrance, j'avais accès à toutes sortes de produits et de pratiques. Mais ce n'était pas aussi clair dans ma tête à l'époque. Je ne suis pas arrivé jusqu'à un point où je me suis dit « la drogue va me tuer ». Mais j'ai commencé une recherche spirituelle et j'ai vu en fait que j'étais en totale dissonance cognitive. Que d'un côté, je faisais la teuf et de l'autre, j'essayais de faire du sport et de pratiquer la méditation. Et qu'en fait, il y avait un énorme contresens. Et notamment, je remarquais à quel point la coke, par exemple, faisait ressortir les pires parties de moi. J'ai eu plusieurs compagnes avec qui on faisait la fête ensemble. Et irrémédiablement, tout le temps, dès qu'il y avait ça, on était tous les deux en train de draguer sous le nez de l'autre. On était toujours en train de manigancer à qui on donnait, à qui... Enfin, c'était vraiment... Il y avait un truc qui faisait ressortir les pires aspects de l'ego. Et donc, je commençais à aspirer à une vie de compassion, de générosité, de service. Et c'était complètement antithétique.
C'est ce que te dit un pote d'ailleurs en soirée avec qui tu te disputes un soir. Il te met vraiment en face de tes contradictions justement et ces dissonances cognitives que tu expliques très bien en fait, c'est-à-dire le fait d'agir à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres désirs, de ses propres fondements. Ça s'appelle même l'acrasie, on appelle ça. C'est un terme que j'aime beaucoup, qui est le fait
d'agir. L'acrasie.
Ouais, acrasie. C'est très philosophique, c'est l'époque Socrate, on va dire. Hein. On est sur quelque chose qui est le fait d'agir contre son propre son bon jugement, en fait.
Attends, je le note, ça.
Donc déjà, c'est souvent ce qu'on fait quand on se drogue. Hein. On sait très bien que ça fait du mal et on le fait quand même, quoi. Et donc, cette dissonance cognitive, ce pote te met face à ça. Et toi, tu comprends, en fait, qu'il va falloir aller plus loin.
C'est un des tournants dans ma vie, ce moment-là. C'était un mec qui était un peu comme un frère, mais on était des frères parfois... pas ennemis, mais on était vraiment dans une forme de concurrence et de compétition, lui et moi. Et c'était un moment où lui n'était pas particulièrement bien, et moi, je me sentais un peu au top. C'est terrible ce que je vais dire, mais c'était comme, j'étais tellement fier de la femme qui, à l'époque, était à mon bras, d'une façon vraiment superficielle. On s'était retrouvés dans la maison de ma mère, dans un beau jardin, avec des potes, et on avait pris... des microdotes, un truc un peu exotique que j'avais acheté à l'époque. J'avais un dealer au Sri Lanka où j'allais souvent pour faire la fête dans la jungle avec des surfeurs un peu mafieux, un peu bisounours. c'était vraiment tellement une autre vie. Et en fait, j'ai fait le bad trip de ma vie, entouré de lui, de mes potes, de ma copine, où j'ai senti vraiment une... En fait, plus j'allais mal, mieux il allait lui, plus il prenait de la place. J'ai senti qu'il me montrait qu'il y avait une forme de presque de domination sexuelle sur, même si rien n'a été entamé, je crois, sur ma copine, que moi j'étais relégué au stade de petit enfant. C'était terrible. J'ai cru que j'allais mourir, en fait, ce jour-là, que c'était la fin de ma vie. Et en fait, lui, ce qu'il montrait, c'est que d'un côté, j'avais déjà lancé les Antisèches du Bonheur et je commençais à avoir un peu des followers et des gens qui me remerciaient de les aider dans leur vie et tout. Et de l'autre côté, j'étais avec mon pétard, avec mes drogues exotiques et tout. Et lui, il disait, mais t'es une contradiction sur pattes, en fait. Mais il me le disait même pas verbalement, il le disait avec son comportement. Et je me souviens notamment quand j'allais pas bien et pour ce jour-là, il venait me voir, il me disait, mais Joe, t'as qu'à méditer, non? et c'était terrible. Je pense que c'est une des violences les plus fortes que moi j'ai expérimentées dans ma vie. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui prenait vraiment beaucoup de place. Et le choix, c'était soit je le virais de chez moi alors qu'on était tous sous l'effet de quelque chose de très fort et que c'était complètement irresponsable de faire ça, soit c'est moi qui m'écrasais. C'était un duel. Il devait forcément y avoir un gagnant et un perdant. Et au sortir de là, ça a été le début de la fin avec ma copine de l'époque, dont j'étais éperdument amoureux. Et là, j'ai décidé d'arrêter de fumer des cigarettes, d'arrêter de fumer des pétards, de partir faire Vipassana, enfin de complètement retourner ma vie et d'aller véritablement vers de l'alignement. Et d'arrêter de croire que je pouvais jouer sur les deux tableaux.
La retraite Vipassana, donc c'est une retraite. Je crois que tu vas l'expliquer mieux que nous, mais voilà, il y a plusieurs formules. C'est gratuit.
C'est gratuit, effectivement. Tu fais une donation à la fin. C'est les donations qui permettent de financer les prochaines personnes. C'est la technique de méditation qui aurait été inventée par Bouddha pour apprendre à mieux observer et gérer les émotions. Tu te réveilles à 4 heures, première méditation 4h30 jusqu'à 6h30, et comme t'enchaînes comme ça, et l'idée c'est d'apprendre à observer ton mental sans t'identifier, à comprendre que derrière toute émotion il y a des sensations physiques dans le corps, et que ces sensations physiques sont impermanentes, et que si t'apprends à observer les sensations physiques qui se rapportent à des émotions, sans t'identifier aux pensées qui accompagnent, alors tu peux beaucoup mieux gérer ces émotions et quand c'est des émotions gênantes, diminuer leur fréquence et leur amplitude. Moi, ça a vraiment changé ma faculté à gérer mes émotions, ma colère, mes addictions, la patience.
Pendant les 10 jours et après, tu as vu tout de suite quelque chose?
Oui, parce que les 10 jours, ça infuse après pendant des mois. Ouais, c'est fort. Il se passe un vrai truc, c'est comme une opération chirurgicale. Enfin, c'est un truc, c'est hyper fort. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes, si t'es pas prêt, si t'es fragile, c'est pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'en suis revenu de ça. C'est quelque chose, pendant un temps, je disais à qui voulait bien m'entendre qu'il fallait absolument aller faire Vipassana. C'était mon cheval de bataille. Et aujourd'hui, je suis à un niveau différent du Super Mario où je suis plus là-dedans, en fait. Je l'ai fait 3 fois, et la 3e fois, j'ai dit, OK, c'est fini, je le referai plus. Je suis ravi de l'avoir fait. Je continue à encourager certaines personnes qui veulent y aller, à y aller. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment particulier.
Moi, j'hésite beaucoup parce que je me sens pas prête. Enfin, la méditation a aussi énormément contribué à mon rétablissement. Je peux pas dire que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça, à partir du moment où j'ai commencé à méditer il y a presque 10 ans, et le yoga aussi en même temps, ça a vraiment, vraiment changé des choses. Mais de là à dire que je pourrais faire 10 heures par jour. Le problème, c'est l'intégration. Moi, tu vois, j'étais partie faire 3 jours justement en retraite silence avec justement ta douce Jeanne. Et déjà, pour moi, le silence, ça a été un sacré truc, quoi, 3 jours. 3 jours sans parler, je crois que ça a fait énormément de vacances à mes proches.
Tu t'es sentie comment pendant ?
Ça a été très dur et j'ai eu un moment extrêmement puissant que je raconte déjà dans un de mes livres, dans le livre Les Montagnes Roses, je raconte ce moment-là. C'est un moment où je suis sortie en courant après une séance de respiration allotropique Wim Hof très puissante. Après avoir fait 3 jours de silence, on a fait toute une séance de sonothérapie. Enfin voilà, il y avait un niveau, un taux vibratoire, je pense, qui commençait à grandir. Et puis je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je suis sortie en courant et il y avait des ânes et je me suis rapprochée de l'enclos. Et là, il y a un âne qui vient et qui pose son museau sur mon front. Et voilà, et c'était pour moi une grosse expérience. Wow. Je me suis fait consoler par un âne.
et t'as senti des bienfaits à la suite de l'expérience ?
En fait, moi, je, comme toi, je crois, là, par rapport à ce que tu racontes et ce que j'ai lu, comme tout le monde, il y a énormément d'expériences que je fais. Notamment cet été, une expérience dont on va discuter. Voilà, c'était ma première expérience chamanique. Mais vraiment, l'intégration est très compliquée. En général, moi, j'ai toujours un pic où je ressors de l'expérience en me disant « c'était extraordinaire, il faut que tout le monde le fasse ». Après, je redescends et je me dis que ça va de moins en moins bien, quoi. Et souvent, ce genre d'expérience me font aller très mal pendant un bon moment. Je pense que c'est le but aussi... quelque part, c'est d'aller mettre de la conscience là où il n'y en avait pas, quoi. Donc, on découvre des parts de nous un peu souffrantes. D'ailleurs,
tu parles de douleur, parce qu'il me semble que la douleur, en fait, elle est essentielle à notre évolution.
Voilà.
Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'évolution sans douleur. La vie devient vraiment magique quand on arrive de plus en plus à voir les expériences de douleur, non pas comme des choses qui ne devraient pas arriver, mais plus comme des cadeaux cachés de la vie pour avancer sur le chemin.
Oui, c'est ça. Et puis c'est une porte, hein. C'est une porte vers notre guérison, vers notre chemin, vers notre inconscient, ce fameux enfant intérieur dont tu parles beaucoup. Un enseignement majeur pour toi, c'est donc Gabor Maté, comme on l'a vu, c'est psychiatre canadien, qui lui, quand même, est né en 1944 en Hongrie. Donc, on voit un peu le contexte. La dépendance est une réponse à la souffrance, un mécanisme de défense pour prendre soin d'une blessure. La souffrance, quoi qu'il arrive, quand on va chercher au plus près de la souffrance, on trouve des clés.
C'est clair, c'est la souffrance qui nous montre le chemin d'évolution.
Il y a des drogues qui rétrécissent la conscience comme la cocaïne, l'alcool, je pense aussi. Et je crois que toi aussi, tu as aussi évolué en fonction de ton évolution spirituelle. Tu as changé de drogue, entre guillemets, quand même. Parce que même le LSD dont tu parles, enfin, il y a quelque chose qui c'est beaucoup plus puissant quand tu parles de LSD ou de MDMA que quand tu parles de cocaïne ou d'alcool, quoi.
Ouais, je pense qu'il faut faire attention avec le terme « drogue ». Je pense que quand tu dis drogue, déjà on pense, je pense que les associations avec ce mot en général sont un, dépendance et deux, nocivité. Et il me semble qu'il y a des substances qui créent de la dépendance et qui sont nocives, et il y a des substances qui créent de la dépendance et qui sont moins nocives, des substances qui sont nocives mais peut-être qui ne créent pas de dépendance, il faut faire attention. Enfin, en tout cas, moi, ce mot, il me fait vraiment tilter de drogue. Et je préfère, enfin, si je parle de la coke, je peux dire de la drogue, mais si on parle de LSD, même de MDMA, là, je commence à être moins confortable de parler de drogue, parce que c'est des substances qui peuvent avoir un usage récréatif, mais qui peuvent aussi avoir un usage thérapeutique majeur. Et puis après, il y a des substances, des plantes, qui sont des plantes sacrées dans certaines traditions, et où là, je pense qu'il ne faut vraiment pas parler de drogue. Par exemple, si on parle de champignons ou d'ayahuasca.
Bien sûr. Et on va venir d'ailleurs à l'ayahuasca, mais d'abord, le LSD, tu dis, grâce au LSD, j'ai découvert une connexion à la nature que je ne soupçonnais pas et qui a été un facteur important dans mon cheminement vers la méditation. Si je n'avais pas pris de LSD, je n'en serais sans doute pas venue à méditer et les personnes qui profiteraient aujourd'hui de mon travail n'en auraient pas eu le bénéfice. Est-ce que tu es pour les thérapies microdosing ? Est-ce que c'est plus dans ce cadre-là ou alors vraiment automédication ?
Moi, j'ai expérimenté ces substances-là d'abord de façon récréative. Clairement, je prenais ça dans un cadre festif au début. Et j'ai découvert, en marge de la fête, qu'en fait, je pouvais rentrer dans une sorte de transe méditative où j'ai vécu une expérience vraiment d'unité. Notamment, j'étais au Sri Lanka une fois, j'avais pris du LSD et je faisais plus qu'un avec les arbres, avec l'océan devant moi, il n'y avait plus de séparation. Et j'expérimentais ce que les enseignements ancestraux disent sur la réalité de ce qu'on est véritablement. On pense qu'on est les vagues alors qu'on est l'océan. on pense qu'on est les ampoules alors qu'on est l'électricité. Et donc là, j'ai senti cette unité.
Est-ce que tu peux expliquer ça, justement? Ça m'intéresse beaucoup, l'unité. Comment est-ce qu'on explique la non-dualité? En plus, dans ce podcast, c'est important, parce que j'ai l'impression que la consommation, elle vient de la contradiction, justement, de cette dualité, du fait qu'on est toujours en train d'avoir une vision extrêmement binaire de ce qu'on est, comme si on pouvait être que ça, alors qu'on peut être ça et ça et ça. Donc, nous, l'addict a une vision extrêmement noire ou blanc de la vie. Et le but, c'est justement d'unir ces extrêmes, quoi. Et moi, je ne comprends pas vraiment qu'est-ce que c'est que la non-dualité.
Fais gaffe, parce que tu es en train de me lancer sur un sujet, déjà, qui est le sujet qui me passionne le plus, mais je pense que je peux avoir l'air un peu perché si je parle de ça.
S'il te plaît.
La non-dualité, c'est quoi? C'est la compréhension qu'il n'existe qu'une seule chose, qu'il n'y a qu'une seule chose. Qu'il n'y a que la conscience, qu'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler la nature, qu'on peut appeler... Et tout est une émanation de cette chose-là. Donc tu reprends l'image de l'océan, il n'y a pas de vagues. Il y a des vagues, mais ces vagues n'ont pas une existence indépendante. Ce qui a une existence indépendante, c'est l'océan. Donc, en fait, c'est de dire que le divin est en nous, est ce que nous sommes. Nous sommes tous de la matière divine qui prenons différentes manifestations, différentes formes. De la même manière que tu as l'électricité unique qui va venir dans tel objet, dans telle ampoule, dans tel... Mais c'est toujours la même électricité. Donc, le résultat de ça, c'est d'aller vers moins de souffrance, plus d'amour, de... se reconnaître en l'autre, de se reconnaître en tout. Donc voilà ce que c'est la non-dualité. La non-dualité, c'est d'arriver à une compréhension de qu'on est un et qu'on forme le un. Je sais que c'est très...
Non,
ça
mais...
peut paraître très perché et très vague.
Pas du tout. Pas du tout, parce que je comprends totalement, parce que je l'ai vécu et je le vis. Moi, ce que j'ai plus de mal, c'est ce qui me pose problème en général, c'est d'intégrer les choses et de les garder. C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, où je peux t'expliquer ça, l'unité et la source, le fait de me dire que je suis la source, en fait, et que Dieu ou l'univers, en fait, est en moi comme je suis dans l'univers. Enfin, voilà, je ressens tout ça. Et puis, il y a des moments où, en fait, ça me paraît... C'est comme si on m'enlevait... un truc dans le cerveau et je comprends plus rien. Et je me dis, mais on est un, on est qui, on est quoi? Et c'est un truc de fou. Et ça te fait jamais ça, cette impression d'avoir compris tout et puis d'un coup, ben, plus rien.
Tous les jours.
Voilà. Ça me rassure.
Non, mais tous les jours. Tous les jours, je suis pas éveillé. Donc,
est-ce qu'on peut l'être éveillé pour de bon? Est-ce qu'une fois qu'on est éveillé, c'est terminé?
Écoute, avant, je le croyais pas. Je croyais que non. Et j'ai eu sur mon chemin... ces dernières années, deux personnes dont j'ai la conviction aujourd'hui que c'est ce qu'on pourrait appeler des maîtres réalisés. Donc, c'est des personnes qui ont réalisé leur vraie nature, donc qui ne souffrent plus, qui vivent leur expérience de séparation sans avoir, en ayant la compréhension que cette séparation est une illusion.
Parce que si on revient justement à la source de l'addiction, c'est la séparation. L'addiction, c'est la maladie du lien. On appelle ça la maladie du lien chez les alcooliques anonymes. Il y a quelque chose qui est du fait d'avoir été coupé de la... Alors, évidemment, il y en a qui parlent de quand on sort du ventre de notre mère. Évidemment, il y a déjà cette première séparation avec la fusion qu'on avait avec la mère. Mais en fait, c'est au-delà de ça. C'est le fait de venir au monde. Si on croit à ce qu'on croit, Jonathan, comme toi et moi, on vient de quelque part où on savait tout. Où on savait quelque chose, on arrive et soudainement, ben, on doit tout recommencer à zéro. La souffrance, elle commence là. Et l'addiction, pour moi, elle commence là. En tout cas, ça, pour moi, cette explication donne un sens au fait qu'on soit tous addicts.
Mais c'est exactement ça. Ce que disent ces enseignements non-duels, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie est une tentative de retrouver cette unité, de retrouver cette connexion. Quand j'ai cette expérience où mon mental... n'est plus là parce que je suis en train de manger un truc incroyablement bon, je suis en train de vivre cette expérience d'unité. quand je suis au stade en train de chanter avec 10 000 autres personnes la même chanson pour la même cause, je suis dans cette expérience d'unité. Quand je suis en train d'avoir un rapport sexuel, je suis en train de vivre cette unité, la chorale, enfin tout. La vie est structurée de telle sorte à ce qu'on vive la séparation. Et ce que nous disent les enseignements spirituels, c'est qu'en fait, c'est un cadeau que la conscience s'est faite à elle-même pour redécouvrir ce que c'était que l'unité, pour redécouvrir ce que c'était que l'amour. Et donc, c'est comme si tout ça était qu'un jeu.
Il y a des moments où je le vois comme ça, où je me dis, c'est ça le but du jeu, c'est ça, c'est le jeu. C'est de retrouver ce chemin vers l'unité, de retrouver notre source. En fait, il y avait une phrase, je ne sais plus qui disait ça, c'est magnifique. Si tu veux ne plus jamais avoir soif, deviens la source. C'est vraiment ça.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, je sais quand... Je pense que ma plus grosse addiction aux substances, c'est le tabac. Et ça m'arrive d'ailleurs de temps en temps de retirer sur un pétard. Je fais très attention parce que je suis très addict. Autant je peux boire, j'ai aucun problème avec l'alcool, par exemple. C'est pas du tout un terrain dangereux pour moi. Donc je m'arrête de moi-même en général si on me donne une bière au milieu de la bière parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Et que en revanche, j'ai ce truc avec le tabac, peut-être parce que ma mère fumait quand était enceinte, où je peux devenir fou avec le tabac. Et ce que je ressens quand je fume, c'est comme s'il y avait un bouchon qui venait remplir mon plexus solaire. C'est ce que je ressentais à l'époque aussi, je crois, avec la coke, dans les quelques minutes où ça durait, en fait, ce truc où genre, je suis entier. Tu sais, il y a juste pendant ce moment-là, je suis entier. Pendant ce moment-là, je n'ai pas de pensée. Pendant que ce soit le moment où tu viens de prendre de la coke, ou tu as tiré une latte, ou alors tu as mangé ton gâteau préféré, ou tu es en train d'orgasmer. Et oui, donc c'est des tentatives de recherche d'unité. Et la magie, c'est quand on découvre des façons qui sont bénéfiques pour nous d'aller vivre cette unité. Et qu'en fait, effectivement... C'est en nous, ça paraît un terrible lieu commun, mais c'est en nous. On est cette unité. L'enseignant non-duel qui m'affecte le plus en ce moment, il s'appelle Rupert Spira, c'est un anglais, il dit quelque chose que je trouve vraiment fort, il dit « la souffrance c'est ce que l'on fait, et le bonheur c'est ce que l'on est ». Et je pense que c'est une des plus grandes fausses croyances et croyances destructrices qu'on a, c'est de se dire qu'on a besoin d'acquérir certaines choses, d'ajouter certaines choses pour devenir heureux ou pour être plus heureux, alors que c'est toujours l'inverse, en fait. C'est qu'on
doit enlever,
débarrasser de certaines choses. Et c'est très difficile à comprendre avec le mental, ça. Parce que le mental, il pense qu'il faut toujours plus. Et pourtant, je veux dire, moi, c'est quelque chose que je comprends extrêmement bien à un niveau théorique. Et pourtant, j'ai toujours un caddie sur un site qui est sur le point d'aller vers le check-out. Je suis addict à l'achat de livres. Je ne sais plus à qui je disais récemment que j'adore lire, c'est une de mes activités préférées, mais que vraiment, mon activité préférée au monde, c'est d'acheter des livres. Et que ça, je le fais beaucoup plus que de lire des livres.
Ah, on achète beaucoup plus de livres qu'on pourra jamais en lire, j'ai l'impression.
Mais c'est ça. Et donc, il y a toujours ce truc de... Il y a ce puissant fond qu'on vient remplir.
Des tonneaux percés, disait Socrate. J'aime beaucoup Socrate.
Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, tonneaux percés.
Je pense que les addicts, je le dis souvent, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas les bons outils. Donc, pour moi, un addict, c'est un être spirituel. Donc, dès le début, avec ton doudou, avec ton sucre, avec ton shopping en ligne, avec tout ça, il y a quelque chose de toute façon d'extrêmement spirituel, même si tu ne le sais pas encore. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'ai compris aussi, c'était au lieu de me battre contre ces ombres-là et contre ces démons-là, essayer de, ce que je disais dans l'introduction, de mettre de la lumière dessus pour leur permettre de les accueillir, de les embrasser et de faire la paix en fait avec des parties de nous qui sinon vont venir tout le temps à notre insu, quoi. Et en fait, qu'est-ce que tu as, avec quelle partie de toi tu as l'impression d'avoir fait la paix et comment en fait? J'aimerais qu'on parle quand même des cérémonies parce que je crois que t'en es à ta centième cérémonie peut-être, non?
J'en ai fait beaucoup. Non, c'est marrant que tu me parles des parties. Je sais pas si tu connais Dick Schwartz qui IFS Internal Family Systems, qui est cette approche thérapeutique où on va parler à ces différentes parties qui sont à l'intérieur de soi. On parle à sa colère, on parle à sa peur, on parle à son perfectionnisme, on parle à son côté papa, on parle à son côté fils, on parle à... Et hier, pour la première fois, j'ai fait une session thérapeutique d'IFS où justement, j'ai été parler à la partie de moi qui a peur de manquer, qui a peur de ne pas avoir assez de nourriture au buffet, qui a peur de ne pas avoir assez de considération, qui a peur de souffrir seul. Et c'était hyper puissant. Et j'ai l'impression d'être qu'au début, en fait, de ce travail. C'est un travail de connaissance de soi et d'aller à la rencontre de ces parties, d'apprendre à passer du temps avec elles, à leur parler, à écouter ce qu'elles ont à nous dire, à les rassurer pour faire en sorte qu'elles arrêtent de créer des comportements qui nous font du mal.
Oui, les rendre conscients déjà pour qu'ils arrêtent finalement d'agir dans l'ombre et à notre insu. Vraiment, je pense qu'il y a un moment donné, quand on arrive à accepter, accueillir, ça joue beaucoup moins de tours, quoi. Pour avoir expérimenté une seule fois, donc cette racine, ce mélange, donc la racine de chakruna et ayahuasca, c'est ça?
Alors, c'est la racine, c'est mariri. Et la feuille, ouais, c'est chakruna. Donc la feuille contient la DMT, qui est la substance qui nous met en connexion et qui donne ses visions. En tout cas, c'est peut-être pas elle qui donne les visions, mais qui nous rend réceptifs aux visions. Et la mariri, qui est la racine, qui en fait vient déjouer le mécanisme à l'intérieur de nous qui empêche la DMT d'avoir des effets. Et donc ça, c'est déjà un truc qui est vachement intéressant, c'est que c'est le seul principe actif qui donne des visions pour lequel le corps a une fonctionnalité qui empêche ça.
Un inhibiteur de DMT.
Ça. Et c'est assez fou quand ils pensent qu'il y a ça dans le corps. Et pourquoi il y a ça dans le corps alors qu'il n'y a pas ça avec d'autres choses.
Avec les récepteurs des autres drogues, des autres neurotransmetteurs, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'inhibiteur.
Il n'y a pas ça.
Ce qui est plus fou encore, c'est de savoir qu'ils ont trouvé cette recette de ce mélange de ces deux plantes pour pouvoir justement avoir les effets de la DMT tout en permettant au corps de les recevoir et de ne pas les inhiber.
Ouais, non, c'est complètement incroyable parce qu'avec les dizaines de milliers...
De combinaisons.
De plantes qui existent en Amazonie et les milliards de combinaisons qui en résultent d'avoir trouvé cette combinaison. Elle n'a pas été trouvée par hasard. Je pense que c'est quelque chose qui a été reçu. Là, on rentre dans le domaine du magique. Il y a des théories qui disent que c'est pas prouvé, mais que les expériences de mort imminente, les rêves, seraient du relâchement de DMT dans le système.
Tu veux parler de la première fois que tu as expérimenté une cérémonie ou alors plutôt parler du principe en général de toutes ces étapes-là que tu as traversées autour dans ton livre, hein, le journal d'un voyageur chamanique. Qu'est-ce que toutes ces expériences t'ont apporté, dès la première en tout cas?
La première, pas tant que ça, parce que j'étais pas prêt. C'est une histoire rigolote, Après ma dépression, j'ai 20 ans, je suis en fac à New York, je décide de partir faire le tour du monde avec l'argent gagné en stage. Et ma mère me dit « Ok, on va vous retrouver à mi-chemin dans la forêt amazonienne et on va prendre l'ayahuasca. » Elle me dit « C'est pas une drogue, c'est pas pour rigoler, tiens, lis ces bouquins là-dessus. » J'avais 20 ans, c'était à 25 ans.
Ta mère ?
Ma mère.
Génial.
Qui était déjà sur un chemin spirituel et on est parti donc... dans l'Amazonie péruvienne, dans un endroit chez le chaman. On a fait des heures de bateau, des heures de marche dans la jungle. Enfin, c'était un peu l'aventure. Hein. C'était à une époque où les gens n'allaient pas... c'était pas encore popularisé comme ça l'est aujourd'hui. Mais j'étais pas prêt, j'étais pas vraiment sur un chemin. Et la plante te guide si toi tu investis, si tu fais du travail. C'est pas un truc passif. C'est pas comme de prendre un comprimé ou... C'est si tu fais un travail véritable sur toi, si tu as le courage de te poser les questions difficiles, de te remettre en question, de nettoyer les choses qui ont besoin d'être nettoyées, de mettre fin aux habitudes, aux relations qui ne te servent pas. Et alors, la plante, elle va t'accompagner, elle va te donner des visions, elle va te donner des enseignements. Et ça, j'étais véritablement... ça fait que 8 ans que j'ai pu faire ce travail réellement. Et c'est, je l'ai fait... je m'y suis mis un peu en même temps, que j'ai commencé Vipassana, que j'ai arrêté les drogues, que c'était, il y avait une vraie intention de travail. Parce que c'est dur. La plante, elle te fait vomir, elle vient te nettoyer, elle te montre des trucs qui sont difficiles à voir. Il faut être motivé, quoi. C'est pas prendre comme prendre un extra au bord de la mer.
En fait, j'ai l'impression que pourquoi ça guérit de beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que tu en dis, toi, mais c'est vraiment par rapport à cet éveil. J'ai l'impression que ça nous permet un éveil spirituel qui fait que beaucoup de choses soudainement deviennent, en tout cas, moins souffrantes, parce que ça donne un sens, on a l'impression qu'on comprend pourquoi on est là aussi, il y a cette unité aussi qui arrive, mais il y a aussi toutes les parties de nous que la plante va nous amener à aller embrasser, ramener. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme des bouts d'âme qu'on aurait perdu en chemin. Et il y a cette histoire de, souvent de s'aimer. Une fois qu'on s'aime, on n'arrive à plus être malade, addict. Moi, j'ai l'impression. Et la plante nous amène vers ça.
La plante nous montre le chemin vers ça, ouais. Au final, il n'y a que nous qui pouvons nous aimer nous-mêmes. Mais pour s'aimer, on doit se connaître. Et une des plus grandes erreurs qu'on commet, c'est de penser qu'on se connaît parce que on connaît nos goûts. Je sais ce que j'aime commander quand je vais à la pizzeria ou les films que j'ai envie de regarder le dimanche soir. Comment je réagis quand on parle de cette manière-là, mais que donc je me connais. Mais je me connais pas. De se connaître, ça demande de vraiment y aller. Pour se comprendre, comprendre quels sont. Il y a tellement d'influences inconscientes en nous. Il y a tellement de choses de nous qu'on ne voit pas, qui sont évidentes pour les autres. C'est ce qu'il dit Eric Fromm dans L'Art d'Aimer. Il dit « Aimer, c'est un art. » Et un artiste, c'est quelqu'un qui connaît déjà bien son sujet. Donc, je ne peux pas aimer quelque chose que je ne connais pas. On est nombreux à avoir vécu ce truc de tomber fou amoureux de quelqu'un qu'on connaît à peine et de penser qu'on l'aime, mais on l'aime pas du tout. On aime une projection, on aime une image, on n'aime pas vraiment la personne. Pour véritablement aimer quelqu'un, il faut la connaître. Et c'est vrai pour les autres, c'est vrai pour nous.
L'ayahuasca permet déjà d'apprendre à se connaître. De quelle manière concrètement
Elle nous montre plein de trucs, elle nous montre...
Est-ce que ça peut être l'inconscient autant que quelque chose de divin Parce que je vais juste parler 2 secondes de ma seule expérience. C'est vraiment cette impression d'avoir tout vu, tout compris. La plante m'a amenée dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé. J'ai vécu des choses aussi puissantes qu'intenses d'amour, de choses très fortes d'amour. Et j'avais l'impression que ça durerait toute la vie et que je serais remplie de cet amour pour la vie, quoi, parce que c'était trop fort, c'était trop grand. Et en fait, petit à petit, ça s'est évaporé un peu comme un rêve. Y a des choses qui font sens maintenant et qui faisaient pas sens, et d'autres qui faisaient pas sens et qui faisaient sens et qui le font plus. Et surtout, j'ai l'impression de plus avoir les mots pour appréhender l'expérience que j'ai vécue.
Je pense qu'il se passe 2 choses quand tu fais participer à un rituel chamanique comme ça, c'est que tu vas vivre une expérience et que tu vas vivre, par exemple, une expérience d'unité, d'amour, et à côté de ça, tu vas recevoir de l'information qui va te permettre d'avancer dans ton quotidien. Ces expériences d'unité, ce qu'on appellerait, je crois que c'est Maslow qui parlait de peak expérience, les expériences de sommet, je sais pas comment on traduirait, elles sont là, je crois, pour t'encourager à faire le travail.
En fait, c'est le petit shoot de dopamine, en fait, qui vient t'aider à bosser. C'est
ouais,
ça.
Elles sont là pour te faire croire, je crois, à la magie du travail. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut taf. Moi, que j'ai eu des expériences d'unité, c'est super. Mais après, ce qui compte, c'est bon, comment je fais pour lâcher prise quand je suis en train de me prendre le bec avec quelqu'un et que je suis dans un conflit d'ego. Comment je fais pour envoyer de l'amour à ma mère plutôt que la pointer du doigt pour toutes les choses terribles que j'ai l'impression qu'elle a fait. Comment je fais pour... diminuer l'incidence de l'ego et réussir à me comporter avec plus d'amour, d'empathie, de compassion, d'écoute.
Du coup, tu penses qu'on peut guérir quelque part si on arrive à s'aimer, à comprendre, on peut guérir. Et est-ce que par rapport à cette maladie de l'addiction, qu'est-ce que tu en penses, toi, que tu pourrais reconsommer comme ça brièvement, récréativement?
Ce qui compte, c'est pas de savoir si on s'aime inconditionnellement à 100%, mais c'est de savoir est-ce qu'on est capable de passer de 20 à 80. C'est déjà énorme. Et ça, oui.
Mais le problème, c'est qu'on peut passer de 20 à 80, mais qu'on peut aussi passer de 80 à 20. Moi, c'est ça que je ressens souvent. C'est que cet amour, en fait, il est impermanent comme tout le reste. Moi, je ressens vraiment l'impermanence des choses dans l'amour que je peux me porter.
Mais c'est pareil si tu fais des abdos, non? Il faut que tu les maintiennes.
Mais exactement. Donc, l'addiction, pour moi, dès qu'on relâche un petit peu, justement, sur cet amour qu'on s'apporte, souvent, moi, je vois la rechute arriver. Je vois le moment qui fait que tout va basculer. C'est des moments où tu as de la rancœur, où tu rumines, où tu deviens... voilà, c'est un cercle vicieux, tout simplement. Et en fait, on te dit souvent que la rechute, entre guillemets, la consommation du produit n'est que la fin de la rechute. La rechute, elle a commencé bien plus tôt.
Ouais, non, c'est vachement intéressant. Et je pense que je pense que c'est vrai. Et je pense que même le terme de rechute, en fait, je crois que c'est un processus. Tu sais, il y a des pas en avant, des pas en arrière. Si tu as plus de pas en avant que de pas en arrière, c'est déjà bien.
Ah, c'est magnifique. Je pense que c'est la réplique de la phrase de Saint-Augustin, réaménager, l'essentiel c'est de marcher sur le bon chemin, même en boitant. C'est pareil. Bah, c'est le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Est-ce que tu conseillerais aux gens d'expérimenter ces thérapies? Est-ce que tu penses qu'il y a un profil pour ça? Et surtout, est-ce qu'on peut devenir addict à ces expériences-là? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui n'arrêtent plus.
Je suis entouré de beaucoup de personnes qui boivent l'ayahuasca très régulièrement, mais qui en ont fait un chemin, comme certaines personnes vont à l'église tous les dimanches, certaines personnes sont dans un club de ping-pong. Je pense qu'il y a un conditionnement dans notre société qui dit si tu ingères quelque chose qui change ta perception, il y a une présomption négative contre cette chose-là. Et je pense que c'est une fausse croyance, c'est un mauvais conditionnement. Maintenant, il peut y avoir une forme d'addiction à certaines formes de spiritualité même. Il peut y avoir une addiction, je crois, je le vois en moi. Tout à l'heure, j'ai écrit cette phrase, j'ai écrit « je suis un putain de collectionneur ». Mais je l'ai écrit vraiment genre un peu en rage. Parce que j'étais là, j'ai fait cette session de thérapie hier, donc, où j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé sur ma peur de manquer, sur le rapport avec une des facettes de mon enfant intérieur. J'ai pleuré et tout. Et tout de suite, j'étais là, bon, ok, maintenant, il faut que je travaille sur ce truc-là et tout. Et en fait, ce qui est ressorti de la thérapie, c'est qu'il y avait vraiment un travail d'intégration à faire avec la partie que j'avais réussi à découvrir. Et plutôt que de prendre le temps d'intégrer, de travailler avec ça, de distiller un peu ça, il fallait que j'enquille un autre enseignement, un autre truc. Et c'est pareil avec les bouquins, en fait. Je lis beaucoup, beaucoup, mais j'achète énormément de livres. Et j'arrive pas, en fait, à me dire j'achèterai un livre seulement quand j'aurai lu les livres. Et je vois ça en fait avec tout, avec les expériences spirituelles, avec les livres, avec les...
Donc addict à vie, de toute façon, on essaie d'être addict à des meilleures choses de plus en plus bonnes.
Mais c'est ça, je crois. Au final, tu vois, bon, c'est pas optimal que j'achète plus de livres que j'en lis, mais...
Ça fait quand même pas de mal.
C'est pas aussi problématique que quand je prenais de la coke ou que je fumais un paquet de clopes par jour ou que je fumais des pétards du matin au soir ou que, enfin...
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui aimeraient bien finir par acheter plein de livres et je crois que on serait tous très contents si c'était que ça le problème. Ben, lequel tu nous conseilles là?
De livres?
Ouais.
Et écoute, pour les anglophones, clairement, le dernier de Gabor Maté, The Myth of Normal, n'importe quoi de Gabor Maté sur les addictions.
Super TEDx d'ailleurs, il a fait un super TEDx sur l'addiction.
Ouais, si on veut explorer la non-dualité, Rupert Spira, Être conscient d'être conscient, par exemple. Évidemment, Eckhart Tolle, pour moi, le livre le plus important que j'ai lu dans ma vie, je pense que c'est New Earth, Nouvelle Terre. Je crois que je l'ai lu pour la quatrième fois cette année. Et en fait, c'est fou, je me suis rendu compte que je l'ai lu comme si je le lisais pour la première fois. Je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de 30% du bouquin, alors que pourtant, je le connais bien, ce livre.
Ça me fait ça avec Krishnamurti, renaître chaque jour, et aussi Thich Nhat Hanh. Enfin, il y a deux livres comme ça, je les relis et c'est toujours comme si c'était la première fois. Mais je te remercie d'avoir donné ton temps de papa, de jeune papa.
Merci d'avoir été persistante et c'était une joie de te parler. Et je suis vraiment ravi que tu es connectée avec mes bouquins et avec cette matière, c'est cool.
Plus que connecté, ouais. Je te remercie vraiment. J'aurais préféré t'avoir en face à face. J'étais un peu perturbée. Je suis bien meilleure en live.
Bah, on fera pour la saison 3 ou la saison 4.
C'est ça. Quand tu auras expérimenté le nouveau truc le plus fou que tu n'aies jamais fait.
Ouais, bah, cet été, j'étais à une retraite non-duel et c'était à nouveau le truc.
Ah, c'est le nouveau truc.
Voilà, le nouveau truc. Il y a toujours un nouveau truc le plus faux.
Rendez-vous pour la saison 12. Je t'embrasse, Jonathan. Merci beaucoup.
Merci à toi, Karen.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradictions.